14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur des radios. Alors bien sûr, il est possible d'avoir du plaisir sans forcément qu'il y ait une pénétration. On peut tout à fait se donner des caresses et obtenir des orgasmes. Mais je crois que ce serait ne rien comprendre à la sexualité de dire que l'érection n'a pas d'importance. L'érection, j'ose l'affirmer, elle est essentielle. Alors essentielle pour que l'homme se sente viril, essentielle pour que la femme se sente désirable, essentielle également pour que le rapport sexuel permette aux deux amants de se sentir totalement en fusion. Alors bien sûr, il est tout à fait possible d'avoir du plaisir sans qu'il y ait une érection, mais nier son importance, c'est, me semble-t-il, en tout cas, se mentir. Alors aujourd'hui, il existe une multitude de solutions pour aider les hommes à avoir justement cette érection. Alors pourquoi est-ce encore un sujet tellement délicat ? C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui avec Vincent Huppertin. Alors Vincent, il est d'abord urologue, donc il connaît bien la mécanique masculine, mais il est également sexologue, donc il pourra nous répondre et nous dire pourquoi cette question est encore si délicate. Et puis bien sûr, surtout et encore, on va vous donner durant ces deux heures des solutions pour que vous retrouviez vos érections triomphantes. Alors, si vous avez le moindre souci dans votre relation sexuelle, c'est le moment ou jamais de nous appeler en composant le 0826 300 300, notre numéro de Sud Radio. Et j'invite aussi les femmes, parce qu'elles le savent, quand l'érection est un petit peu molle, quand elle n'est pas tout à fait facile à obtenir, elles n'osent pas non plus tellement forcément en parler à leur partenaire, elles n'osent pas tellement forcément en parler à un sexothérapeute. C'est pour ça que nous, on est là, sur Sud Radio, pour parler vrai. Vincent Huppertin, bonjour.
Bonjour Brigitte, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, vous êtes urologue et sexologue, je le précise, c'est important parce que la sexologie c'est ce qui permet de mieux expliquer tous les enjeux de la sexualité et il me semble que l'érection c'est un véritable enjeu. Vous êtes d'accord ou pas avec ce que j'ai dit dans l'introduction ?
Absolument, mais c'est tout à fait ça, c'est qu'effectivement, l'érection n'est pas le alpha et oméga de la sexualité, ça commence pas avec l'érection et ça finit pas avec l'éjaculation en fin d'érection, néanmoins, la dimension érectile, elle est importante, y compris parce que, comme vous avez dit, il y a la fusion émotionnelle, mais il y a aussi la fusion corporelle, parce que comment voulez-vous qu'il y ait une fusion des deux corps, si, juste par l'attouchement, donc la pénétration, l'érection permet tout à fait ça, cette fusion, cette fait que les deux corps ne font qu'un. Donc, c'est très important, l'érection. C'est pour ça qu'il est indispensable de prendre soin de son érection et ensuite de la soigner parce qu'on a aujourd'hui des moyens pour la traiter, soigner et la traiter effectivement. Voilà.
Alors on va venir durant ces deux heures, je suppose, sur tous les traitements, sur toutes les solutions qu'il y a. Mais d'abord, la question qu'on se pose et à laquelle il faut que vous répondiez, Vincent Huppertin, pourquoi c'est un sujet aussi tabou, aussi délicat d'aller consulter quand on a des pannes d'érection ? Parce que les hommes attendent souvent très longtemps avant de prendre, si je puis dire, la chose en main.
Effectivement, c'est tout à fait vrai, c'est un vrai sujet tabou. D'ailleurs, à ma consultation, un tiers de rendez-vous est pris par des femmes, par les compagnes. Donc, c'est les hommes qui attendent vraiment la dernière minute avant de pousser la porte d'une urologue, prendre rendez-vous parce qu'il y a la honte, parce que c'était complexe. Il y a notre éducation, on ne parle pas de ça, la sexualité, ça se fait le soir. Dans les couples, on n'arrive pas à en parler. C'est vraiment, il y a un vrai blocage, un blocage qui est d'ordre éducationnel, d'ordre culturel. Donc, c'est quelque chose de très caché, de très tabou. Donc, et c'est problématique parce que souvent, les hommes arrivent trop tard dans nos cabinets, alors qu'on a les moyens de les aider très rapidement. Donc, c'est important qu'ils osent, qu'ils parlent.
Alors, trop tard, ça provoque quoi quand les hommes attendent trop, justement ? Ça provoque encore plus de difficultés pour retrouver l'érection ?
Il y a les deux effets. Il y a la partie émotionnelle. L'homme qui commence à manquer de confiance, qui a des érections par l'anxiété, ça va que s'aggraver. Donc, au fil du temps, aura encore plus du mal à maîtriser sur le plan émotionnel. Et puis, l'érection comme une maladie, c'est rien d'autre que le vieillissement des artères. Donc, on a des solutions. On peut conseiller. Il y a des bilans. Il y a des maladies. Il y a des diagnostics. Il y a des traitements. C'est pour ça que plus c'est précoce, c'est comme toutes les maladies. Ce n'est pas que l'érection. Toutes les maladies, plus tôt on les prend en charge, mieux on a les possibilités de diagnostic et de traiter à la base pour éviter l'aggravation de la maladie, absolument.
Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, Vincent Huppertan, parce que ça, on le voit dans la sexualité féminine aussi, quand les femmes ont eu une ménopause et qu'elles ont eu les enfants qu'elles ont désiré avoir, on leur dit, bon, bah, si vous avez des problèmes pour faire l'amour, si vous avez une sécheresse vaginale, si vous avez un peu mal, bah, laissez tomber, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça vis-à-vis de l'homme qui vieillit, on se dit, bon, bah, après tout, bon, bah, on ne peut pas être et avoir été, c'est pas grave. Est-ce qu'il n'y a pas encore ce déni de la nécessité d'avoir une sexualité jusqu'à sa mort?
Il y a à la fois une différence hormonale, c'est que contrairement à la ménopause, l'andropause telle qu'on l'imagine, elle n'existe pas. Il peut y avoir une baisse de l'intérêt, baisse hormonale, mais il n'y a jamais, c'est-à-dire qu'à 90 ans, on peut avoir, j'ai encore des patients qui ont des érections tout à fait satisfaisantes pour avoir une sexualité épanouie. Donc vous voyez, effectivement, on peut faire le deuil de son érection, mais c'est toujours délicat, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de il y a le manque de confiance, en fait, cette perte d'érection, elle est mal vécue, et je crois, par la totalité des hommes.
Oui, oui, et puis on sait très bien qu'un homme qui n'a plus d'érection, quelque part, a l'impression de perdre une partie de sa virilité. C'est symboliquement quelque chose de très très fort pour les hommes. Et ça l'est aussi pour les femmes. Hein. Je crois, Vincent Huppertan, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent. Pour une femme, quand elle est avec un homme qui a du mal à bander, hein, osons le dire, c'est souvent quelque chose de compliqué pour elle aussi. Elle se remet en question, elles en déduisent même parfois qu'il a une maîtresse, enfin... C'est compliqué aussi pour les femmes. L'érection, moi, je trouve que c'est vraiment le symbole de la réunion de l'homme et de la femme.
Bah, c'est un moyen de communication. Les deux corps communiquent de manière corporelle et non verbale. C'est-à-dire que l'homme qui a une érection avec sa partenaire, ça veut dire qu'il a de désir pour elle. Ça veut dire qu'il y a une stimulation, il y a une communication, il y a une espèce de wifi qui se fait entre les deux corps. Donc, effectivement, et que la première question qui se pose une femme face à des pannes à répétition, est-ce qu'il n'a pas une maîtresse? Ou est-ce que mon corps n'a pas changé? Est-ce que mes symptômes? Est-ce que c'est pas moi qui ai l'origine? Qu'est-ce qui fait que d'habitude ça fonctionne, là ça fonctionne plus? Il y a toutes ces questions, donc. Et que l'homme, plus il a ces questions, il va vouloir montrer par une érection, plus il va penser, il va anticiper, et au moment où il va anticiper, il va créer la panne. Donc vous voyez, c'est un cercle vicieux par la pensée, par le fait qu'il faut oser parler. Brigitte, vous le dites souvent, le sexe, ça se parle dans un couple qui a l'équilibre, qui est en fusion émotionnelle, intellectuelle, il faut évoquer la sexualité avec des mots vrais, avec la parole, c'est très important.
Alors Vincent Huppertan, dans votre dernier livre, l'encyclo Pénis, qui est sorti aux éditions Le Duc, vous donnez tout ce qui existe aujourd'hui pour aider les hommes à avoir une érection. Et c'est vrai qu'on entend toujours parler du Viagra, mais il y a énormément d'autres choses. Et j'ai presque envie de dire, je ne sais pas si vous seriez d'accord, mais qu'à chaque problème d'érection, il y a une solution.
On peut aujourd'hui, en 2020, on dit à nos patients, en 2020, on a toujours un moyen pour donner une érection à un homme. Donc ça dépend des moyens, ça dépend du contexte de la maladie, mais on a tout un ensemble de dispositifs, que ce soit des médicaments, que ce soit des ondes de choc, du PRP, voire des implants. Aujourd'hui, on dispose des moyens. Il faut qu'on ait une adéquation entre ce que l'on peut faire et les attentes de chacun de nos patients. Donc on peut faire, mais il faut consulter.
Alors consultez évidemment de préférence quelqu'un comme vous qui est à la fois urologue et sexologue, parce qu'il y a des urologues, excusez-moi, hein, je ne veux pas attaquer la profession, mais qui s'en foutent complètement. Hein, j'ai déjà eu des patients, enfin des patients non, des auditeurs, parce que ce n'est pas mes patients, qui me disent qu'ils ont eu un cancer de la prostate et l'urologue qui n'a plus d'érection, ce n'était pas son problème. Hein.
Bah, écoutez, c'est comme dans tous les métiers, comme dans tous les corps de métiers, il y a des gens qui s'intéressent à tous les sujets et puis ceux qui sont focalisés, effectivement. Mais on est suffisamment nombreux, vous voyez, il y a déjà le médecin généraliste. Si on a du mal à en parler, il y a des urologues comme moi qui s'intéressent à ça, et puis on a des andrologues. Donc aujourd'hui, il y a quand même, dans toutes les grandes villes, il y a au moins un spécialiste en andrologie. Donc c'est andrologue, sexologue, voire un sexologue. La France dispose de suffisamment de spécialistes pour pouvoir trouver quelqu'un. Effectivement, un médecin qui est focalisé sur le cancer, qui est très médecine, si vous voulez, il y aura peut-être moins de temps à accorder à une médecine qui est plutôt fonctionnelle, de type érection. Mais ça n'empêche que lui, il doit avoir des correspondants, des partenaires, des collègues qui peuvent donc... De toute manière, aujourd'hui, la médecine, c'est un travail d'équipe. Hein. Ceux qui font la prostate, c'est bien qu'ils s'occupent de la prostate. Il n'est pas fort en érection. Ou ceux qui font de la sexualité, ils vont moins faire de la médecine urologique. Donc, effectivement, on en trouve toujours. Donc, et sexologue, urologue, mais il ne faut pas hésiter aussi à parler à ce médecin traitant. Mais c'est, il faut consulter. Voilà. On trouve toujours, si on cherche aujourd'hui, grâce à Internet, on trouve toujours des médecins, des spécialistes qui s'intéressent à la sexualité.
Donc, il faut surtout parler, hein, faut pas rester dans... Parce que c'est le cercle, vous l'avez dit, hein, c'est le cercle vicieux. Des pannes font que l'homme s'inquiète, s'angoisse, et à partir du moment où il s'inquiète, les pannes risquent de plus encore survenir.
La panne crée la panne. C'est une règle non écrite, mais la panne crée la panne. Et ça va l'amplifier. Plus on tarde, plus le cercle va
s'amplifier. Pourquoi la panne crée la panne? Quel est le processus?
Le processus, il est extrêmement simple. C'est que vous voulez, dans l'érection, vous êtes dans le cool, vous êtes dans le présent. On est dans l'autre même. Je n'ai pas d'inquiétude, on est en fusion. Je n'ai pas à réfléchir.
Il n'y a pas de stress.
Il n'y a pas de stress, mais on ne réfléchit pas. On se dit, est-ce que le sexe va tenir? On est là dans le présent, on profite. Le présent se dilate. Dès qu'on a la panne, notre cerveau est marqué sur le plan émotionnel. Donc, on va anticiper. Ça crée une anxiété d'anticipation. On n'est plus dans le présent. On va penser au moment d'après. Est-ce que ça va tenir?
Et là, il y a du stress. Le stress, c'est l'anti-érectile.
Voilà. La phrase que je donne à tous mes patients, c'est penser, c'est pas bondé. Dès qu'on pense à quelque chose, dès qu'on pense, on n'a pas fait les courses, on entend les voisins, les chiens qui rentrent, les enfants qui sont pas loin, la belle-mère qui est juste à côté, dès qu'on pense, l'érection va tomber aussitôt parce que l'érection, ce n'est que de l'émotion. Et dès qu'on réfléchit, dès que le cerveau s'active, l'émotion s'en va, on est dans le présent, il n'y a plus d'excitation et l'érection va tomber aussitôt.
Eh bien, on va essayer de redresser tout ça, Vincent Huppertin, oui. Si vous voulez bien, pendant ces deux heures. Et je vous invite à nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.
14h, 16h. Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Toujours avec un Vincent Huppertin, on essaye de vous donner un peu plus de virilité, on vous aide pour que vous retrouviez vos érections. Alors Vincent Huppertin, c'est Sylvain qui nous a appelé sur Sud Radio. Bonjour Sylvain.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour docteur Huppertin.
Bonjour Sylvain.
Merci d'être avec nous en tout cas Sylvain.
Oui, donc moi c'est vrai que je ne sais pas trop, tout à l'heure là j'écoutais, vous disiez il faut aller voir... urologue ou sexologue ou médecin. Enfin, en fait, on est un peu... souvent, je dirais, les hommes sont un peu démunis vis-à-vis de ça. Enfin, moi, c'est mon cas. Enfin, je fais de l'automédication, je veux dire, par là que j'ai
alors,
pris...
Alors, Sylvain, je suis complètement d'accord avec vous. C'est facile de dire, il suffit d'appeler son médecin traitant, il suffit de... Non, c'est pas aussi simple que ça. Alors, évidemment, si on tombe sur quelqu'un comme Vincent Huppertin, tout devient simple. Mais...
oui.
On est sur, on a beaucoup de chances de tomber sur quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, donc je suis d'accord avec vous. Il faut être écouté et éventuellement guidé, bien sûr.
Oui, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop. Moi, c'est-à-dire que j'ai une histoire, une histoire comme tout le monde. Mais ce que je veux dire, je suis traité pour, j'ai fait une grave dépression en 2008. J'étais pendant 3 ans en arrêt maladie, j'ai repris le travail et je prends de l'Effexor depuis tout le temps, quoi. Moins qu'avant, bien évidemment. Donc ça, déjà, c'est pour la libido, c'est pas terrible. Et puis j'ai été voir, donc j'ai un suivi, un psychiatre, de temps en temps, tous les 2-3 mois, j'ai un suivi quand même. Maintenant, ça va. Et au niveau de j'ai été voir un urologue, donc à Paris ou à Cochin, c'était pour un problème de prostate. C'était mon médecin traitant qui m'avait dit qu'il faudrait aller voir un urologue, mais il faut faire une échographie, donc c'est simplement la prostate un peu grosse.
Un examen de contrôle.
Voilà, oui, oui, donc c'est bénin, enfin bon, ça entraîne effectivement, donc il m'a donné du Xatral, et puis mon médecin traitant, je vais le voir. Donc si vous voulez, j'ai l'impression que je suis un petit peu les trois, en fait, il y en a aucun qui va me dire, enfin si, mon médecin traitant, qui est une femme qui est très bien d'ailleurs, qui essaye de faire le lien, mais l'urologue, il se contente de la prostate. Enfin, il m'a dit, bon, bah, vous faites un suivi, etc. Éventuellement,
oui, on vous gêne trop. On fait des pièces détachées maintenant. Vincent Hubertin, Sylvain donne beaucoup d'éléments. Vous allez essayer de faire la synthèse de tout ça. Qu'est-ce que vous diriez?
Je dis premièrement, il faut savoir que dans le cursus classique d'urologie, maintenant ça a changé, mais pendant longtemps, on n'a aucune formation de sexologie. C'est-à-dire que la plupart des urologues sont des excellents médecins, spécialistes de la prostate et de l'appareil urinaire, mais par contre, on n'a pas de formation en sexologie. C'est effectivement que pour trouver si on a vraiment un problème à approfondir sur le plan sexuel, il faut choisir soit un médecin andrologue, donc il y en a tout, y compris à Cochin, il y a des médecins, Sylvain Mimoun, que vous connaissez bien Brigitte, il est andrologue et par ailleurs il consulte à l'hôpital Cochin, donc vous voyez, c'est l'andrologue qui va chapeauter la partie essentielle médicale sur l'aspect sexuel. Hein, c'est l'andrologue qui est. Et puis, si on a l'aspect purement émotionnel, le couple, le soi-même, la confiance en soi, les histoires, les traumatismes, les psychotraumatismes, c'est des médecins sexologues qui ont cette étiquette. Mais ce qu'il faut savoir, qu'en France, la médecine sexuelle n'est pas reconnue, donc elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale. C'est que la médecine sexuelle, oui, parce que la médecine sexuelle, ça prend du temps, et que la sécurité sociale ne rembourse pas. Donc, effectivement, il y a des mutuelles qui remboursent, mais sur le plan de la prise en charge, il n'y a pas de prise en charge et c'est inutile.
Bien sûr, c'est ce que je disais. C'est pour ça que je dis c'est facile de dire il suffit d'aller voir son médecin traitant. Non, c'est pas si simple que ça, Vincent Hubertin, et le témoignage de Sylvain le confirme. Alors, on entend quand même que Sylvain, vous avez eu des soucis de dépression et que vous êtes sous traitement. Tout ça, c'est quand même aussi des signes qui parfois nuisent à l'érection.
Oui, ça c'est sûr. Oui. Donc, puis bon, effectivement, c'est ce que disait le docteur Hubertin tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a une première fois eu un manque d'érection, après on appréhende, donc ça s'auto-entretient.
Bien sûr.
Donc moi, je prends, donc ma femme, moi j'ai 65 ans, ma femme elle a 16 ans de moins, elle a 49 ans, donc. Donc moi, je me ruine, enfin maintenant c'est des génériques, hein, Cialis et Viagra. Enfin, le Cialis d'ailleurs, c'est le support, enfin le Viagra c'est. Donc j'en prends des fois pour rien parce que je me dis si ce soir donc c'est pas évident parce que ou alors faudrait programmer tel jour je vais en prendre etc. Donc on a l'impression
je crois que le Cialis a un effet sur plusieurs
jours, donc c'est pour ça que je prends mais enfin bon c'est
il faut dans des cas comme ça, généralement vous avez bien dit, on n'est pas disséqué, on n'est pas qu'une prostate, on n'est pas qu'une vessie, on n'est pas qu'une vésicule biliaire. Moi, sur le plan sexuel, en sexologie, je crois que c'est le rôle de la médecine holistique. Donc il faut quelque chose, une approche globale, et que effectivement le médecin traitant, lui, il est sur l'hypertension, le diabète, la dépression, l'urologue c'est sur la prostate. Donc on n'a pas cette formation, mais il est important d'avoir une approche globale, parce que dans votre situation, il faut éliminer quelque chose de médical. Vous avez 65 ans, donc c'est minimum, c'est faire un bilan hormonal, vérifier où on a la testostérone. Passer 40 ans, il faut faire un dosage, donc il y a un bilan normal. Il y a, sur le plan de la médecine générale, il faut éliminer le diabète, le cholestérol, toutes ces maladies-là qui créent un vieillissement artériel. Et puis après, il faut une approche spécifique. C'est vrai que l'automédication, c'est très facile parce que c'est soit sur Internet, soit on s'arrange avec des copains ou des pharmaciens, mais c'est pas du tout adapté parce qu'il faut un examen clinique, il faut qu'on vous surveille, il faut vérifier qu'il n'y a pas de contre-indications. Donc c'est très dangereux, l'automédication. Et puis, il y a une approche particulière. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous répondant à du Viagra ou du Cialis ou de l'Evitra ou la molécule en question. Il y a vraiment une approche spécifique. Parce que ce n'est pas que la prescription, il y a des conseils. À quel moment le prendre? Est-ce que c'est un traitement continu? Est-ce que c'est un traitement à la demande? C'est vraiment la médecine, c'est du cas par cas. C'est vraiment, il faut évaluer chaque homme et moi, j'évalue chaque couple. Je n'ai pas de traitement unitaire. C'est un traitement qui est adapté à la sexualité de chaque couple, parce que c'est vraiment, on est tous très différents.
Et vous faites donc une approche complète, j'allais dire. Voilà, mais bon.
C'est l'essentiel. C'est extrêmement compliqué de faire aujourd'hui.
C'est pas le rôle forcément du médecin. Le médecin, il est obligé de traiter tout l'organisme. Mais en tout cas, c'est le rôle d'un bon sexologue. Je dirais même qu'il vaut mieux aller voir un bon sexothérapeute qui, parallèlement, vous indiquera peut-être faire des examens précis sur le plan hormonal, etc. Mais là vous avez besoin d'être pris en main pour qu'on vous guide. Et qu'on vous donne le bon traitement, mais dans ce qu'on entend, il n'y a aucune raison que vous ne retrouviez pas vos érections, quitte peut-être à vous faire aider, mais par des petits médicaments. Mais il faut vraiment que ce soit fait de manière suivie, et puis en fonction de votre cas particulier. Donc je pense qu'il faut surtout, Sylvain, ne pas désespérer. Il n'y a aucune raison que ça ne refonctionne pas. Mais ça demande en effet un suivi sérieux, c'est ce que vous dit Vincent Hubertin. Merci en tout cas de votre témoignage. On va faire une petite pause et on retrouve notre sexy news Anaïs Deban qui justement va nous parler des hommes et de leur pénis à travers les siècles.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant sexy news.
Alors Vincent Hubertin, je pense que la rubrique de Anaïs Deban, elle est spécialement pour vous. Bonjour Anaïs.
Oui.
Bonjour Brigitte, bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors Brigitte, vous le savez, hein, je vis désormais une grosse partie de l'année en Bretagne, à Saint-Malo précisément. Mon mari est de là-bas, donc il y a gardé pas mal de copains. Et en ce moment, il fait beau, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai un teint un peu allé. Donc on fait pas mal de bateaux. Merci. Et là, c'est la grosse période des crabes. Alors, on retrouve dans la mer des tonnes d'araignées, de homards, et les particuliers, comme nos copains, ont le droit de mettre des casiers dans l'eau pour pêcher ces crustacés. Et c'est pour moi l'occasion de regarder ces garçons renouer avec un semblant d'instinct primaire. Ils adorent l'idée de ramener à manger à la maison. Et le plus fabuleux, et franchement, je ne m'y attendais pas du tout, c'est que même dans un loisir comme la pêche de crustacés, c'est la guéguerre à qui aura la plus grosse. Que de homards en l'occurrence, mais quand même. Alors vas-y, oui, que je t'envoie des photos de ma pêche, qu'on vérifie avec un double décimètre la longueur des pinces, que je m'énerve si on se moque de mon casier vide et que je cache des saucisses knacky dans celui du copain pour se foutre de sa gueule. Et c'est quand même fascinant comme les hommes transposent toujours tout un combat de celui qui aura la plus grosse. Et en même temps, quand on rembobine, à travers les siècles, on voit bien comme tout a toujours été phallocentré. Toute la mythologie égyptienne tourne autour du pénis. Par exemple, il y a trois variantes de hiéroglyphes qui représentent des sexes masculins. Le premier, c'est un sexe en érection, ce qui veut dire virilité. Bon, ça se comprend assez facilement. Le deuxième est un même sexe en érection, mais avec cette fois une tige qui en sort et ça représente le sperme. Ça veut dire fécondation, aucune trace du rôle des femmes là-dedans. Mais le plus rageant, c'est bien celui qui signifie accouchement. Et là, c'est une femme bloquée dans un pénis d'où sort une tête d'enfant. Donc, dans la Grèce antique, on célèbre Dionysos, plus tard, le dieu de la vigne et des excès par des fêtes phalliques. Dès l'arrivée du printemps, les villes se dotent de toutes sortes de stèles représentant d'immenses sexes en érection. Alors, ces fêtes durent 3 jours. Il y a des cortèges avec des statues de pénis énormes derrière lesquelles courent évidemment des prêtresses en chaleur et des jeunes filles vierges. Alors, ces fêtes célèbrent aussi les vendanges et ça se termine par de grandes orgies, ce qui est d'ailleurs toujours le cas aux fêtes de vendanges aujourd'hui, enfin celles où je suis allée en tout cas. Si on a toujours vénéré le phallus, en revanche, messieurs, sachez que les standards n'ont pas toujours été les mêmes. Dans la Grèce antique, par exemple, où se déroulaient ces fêtes orgiaques, eh bien, les pénis les plus recherchés étaient les petits et nerveux. C'est Tom Hickman qui nous dit ça dans son livre « Le bidule de Dieu » qui est sorti en 2013. En grec ancien, le diminutif « postion », à traduire par « petite bite », est un compliment. Les gros sexes à l'époque sont vulgaires, assimilés aux barbares. On retrouve même ça dans la mythologie. Aphrodite est enceinte de Dionysos, ce qui rend jalouse Héra, la déesse du mariage. elle va lui jeter un sort pour qu'Aphrodite accouche d'un garçon au sexe gigantesque. L'enfant s'appelle Priape, ce qui a notamment donné son nom au priapisme, hein, cette érection prolongée, très douloureuse, que certains hommes ont peut-être déjà connue. Alors Aphrodite a honte, hein, elle a l'impression d'avoir donné naissance à un monstre, donc elle le cache dans une contrée lointaine. On n'entend plus parler de lui jusqu'à son adolescence où il devient une bombe atomique. Il courtise les femmes de toute la ville qui lui caressent ce sexe monstrueux avec beaucoup de zèle. Il les punit en leur filant une maladie vénérienne après qu'il les pourchassé dans toute la ville et qu'il lui demande de partir pour laisser leur femme tranquille. Donc il leur file la chaude pisse, hein, parce que ça reste quand même un dieu, Priape. Et pour s'en débarrasser, l'oracle leur dit qu'il faut rappeler Priape et lui rendre un culte. Donc les maris seront guéris seulement s'ils commencent à vénérer celui qui leur a piqué leur femme. Donc dans la Grèce antique, on n'aime pas du tout les gros sexes. Et allez savoir pourquoi, plus tard, les Romains ont commencé à faire des blagues sur les petits glaives. Hein. Alors les glaives, c'était leur épée, hein, donc comme mes copains bretons avec les queues de homard. On se fait des blagues sur les petits glaives et donc on commence à complexer. Si une rumeur laissait entendre qu'un soldat était particulièrement bien membré, il paraît, nous dit toujours Tom Hickman, que les généraux le faisaient monter en grade. Alors, évidemment, je sais bien, messieurs, que votre pénis est une source de très grande fierté, mais aussi, il peut être source de beaucoup de complexes, hein, qu'il soit trop gros, trop petit, pas assez dur, ou aux prises des érections intempestives. D'ailleurs, les femmes l'ont compris très tôt, si elles en ont souvent souffert à travers l'histoire, hein, de cette phallocratie, elles ont quand même su jouer de cette obsession pour votre pénis. À la Renaissance, par exemple, où apparaissent les tribunaux de l'impuissance, on est au XVIe siècle, les mariages arrangés sont toujours en vigueur, hein, ils sont rarement heureux, on ne peut pas divorcer, donc pour rompre l'alliance, eh bien, il faut ruser. Et les tribunaux de l'impuissance, eh bien, c'était un bon moyen pour les femmes d'annuler l'union en prouvant que le mari était impuissant et ne pourrait donc pas lui faire d'enfant. Parce que pendant longtemps, hein, une union stérile, je vous le rappelle, ce n'était pas considéré comme une union viable. Alors, sur plainte de l'épouse, le sexe du mari était d'abord examiné. Hein, s'il ne représentait aucune défaillance au repos, on convoquait une assemblée de 5 matrones, 5 médecins et 5 chirurgiens. Le couple devait faire l'amour devant eux. Mais oui, Vincent, ça vous l'avez bien rappelé. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand une partenaire vous reproche de bander mou ? Bah, vous bandez plus du tout. Et donc, ça coupe la chic. Et vous imaginez un peu. Et bah là, c'est pareil, sauf que vous avez 14 personnes de plus qui vous scrutent. Donc, évidemment, oui. Bah, les femmes, elles avaient gain de cause. Et ça s'est d'ailleurs vite su parce que pendant 2 siècles, les tribunaux de l'impuissance n'ont pas les emplis. Donc attention, messieurs, arrêtez de le mettre sur la table dès qu'il y a une occasion, parce qu'on saura se venger et retourner l'arme contre vous.
Non, ça n'existe plus, ces tribunaux d'impuissance. Mais est-ce que justement, Vincent Huppertan, vous avez l'impression que ça reste toujours aussi présent, ce fameux complexe du vestiaire, parce que c'est de ça dont nous parle Anaïs, hein, celle...
Voilà, il est là, il ne va jamais disparaître, parce que c'est probablement dans notre ADN. Hein, hein, c'est à la fois le complexe du vestiaire, à savoir au repos, à l'état placide, hein, au moment où les autres garçons peuvent nous voir dans le vestiaire, mais ça peut être aussi en érection, parce que ça aussi, ça compte. Si moi, je crains que mon sexe en érection est trop petit, c'est que ma partenaire ne va pas aimer, évidemment, il y a tout un cirque qui se fait dans la tête qui empêche l'érection, quoi. Cela étant, juste une petite anecdote qui est dans mon livre, hein, on a montré à des femmes, à 200 femmes qui devaient, sur des silhouettes, afficher de manière anonyme si par rapport à la taille, par rapport à la taille du sexe, les mains. Et il a été montré que les femmes avaient tendance à appuyer plus sur le bouton « j'aime » si c'était des grands sexes. Donc vous voyez, de manière tout à fait inconsciente...
Si c'était
les grands sexes. Donc chaque fois que c'était des grands pénis, sur les grands pénis, les femmes avaient tendance à appuyer davantage avec « j'aime ».
D'accord.
Genre « je like » les silhouettes avec un grand sexe. Donc, vous voyez, on est quand même silhouette, on n'est pas dans le virel.
Oui, mais je pense qu'on confond souvent la longueur et la grosseur. Et c'est quand même deux paramètres très, très différents. Je pense que
Absolument. Les
femmes, comme ça, naturellement, ont envie d'un sexe assez, assez long. Je ne suis pas sûre qu'elles aient envie d'un gros sexe.
Tout à fait. Donc, les deux participent. Cela étant, la longueur, parce que la plupart des hommes vient avec plus la taille en longueur que le diamètre. C'est ça qui les intéresse. D'autres, je suis à 12, à 13, à 17, je suis c'est trop court, etc. Hein, ils ont part de la largeur, mais c'est plus difficile à la largeur. C'est vraiment, il y a une vraie focalisation phallique hein, sur la longueur du pénis. Donc, c'est quelque chose qui préoccupe, à mon avis, autant les hommes et parfois aussi les femmes.
Mais est-ce qu'on a une idée de d'où ça vient On a quelques idées.
C'est que très probablement déjà si on regarde la taille du pénis masculin par rapport à celui d'une gorille, vous savez la gorille fait 3-5 cm, donc c'était petit, donc ça n'a rien à voir. Absolument. Donc on pense que il y a comme disait Darwin une espèce de sélection naturelle et une sélection. Et que on s'imagine que dans la grotte, au moment où l'Homo sapiens préhistorique était tout nu, bah les femmes avaient la possibilité, le choix, de préférer un homme qui avait un sexe plus grand, dans l'idée de plus de fertilité, qu'un sexe plus petit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cet écart.
Oui, ça c'est fort probable puisque les symboles de la fécondité sont toujours représentés par des sexes particulièrement imposants. Mais je crois aussi, si je ne m'abuse, Vincent Huppertin, qu'on a démontré que quand il y a une combativité pour la fécondation, le sexe du mâle est souvent plus long que quand il n'y en a pas. Donc c'est peut-être ça aussi.
Effectivement, ça s'appelle la compétition spermatique. C'est-à-dire que le sexe est grand, plus il est large, il a la possibilité de chasser le sperme qui aurait pu être déposé dans le vagin par un prédécesseur. Donc effectivement, la compétition spermatique, ça en fait partie.
Il faut des sexes avec des têtes chercheuses pour
bien des gros champignons.
Voilà. N'empêche que ce qui est drôle finalement, Anaïs, Vincent Huppertin, c'est que aujourd'hui où on essaye de séparer le plaisir de la reproduction, on se rend compte qu'on est toujours avec les mêmes symboles, avec les mêmes idées. On n'avance pas beaucoup,
on n'avance pas vite. On trimballe tout cet héritage, bien sûr.
Le cerveau ne peut pas changer. C'est le même depuis 200 000 ans, donc il n'y a pas de raison que ça change en quelques décennies. Donc, on va rester toujours très phallique.
Bon, on va essayer quand même alors de leur donner toute leur vigueur aujourd'hui, Vincent Huppertin, grâce à vous.
Absolument.
Merci beaucoup, Anaïs. Merci.
Merci.
Et ça fait plaisir de vous voir en pleine forme. Alors, c'est Alexis qui va tester son quotient sexuel. Bonjour, Alexis.
Bonjour, l'équipe de Sud Radio et bonjour, Brigitte.
Merci, bonjour. Bonjour Alexis. Vous êtes prêt?
Oui.
Eh bien, on va commencer par une première question. Qu'est-ce que la spermophobie?
Moi, je pense, je crois...
Vous avez, réponse dans le mot.
Ouais. Le liquide séminal, donc le sperme, je pense que c'est quelqu'un qui aurait peur du liquide de l'homme, quoi, des spermes par rapport, je sais pas, ou une femme, voilà.
Du sperme, oui.
Oui, du sperme, oui, donc de l'éjaculation.
C'est plus que la peur, hein.
Oui.
Spermophobie.
D'accord. Oui, c'est phobie, oui, c'est très fort, oui.
Oui, donc c'est carrément la phobie du sperme. C'est quand même c'est pas très fréquent, mais la femme qui a la phobie du sperme, elle est pratiquement incapable d'avoir des relations sexuelles. Hein. C'est heureusement pas trop fréquent quand même, n'est-ce pas, Vincent Huppertin?
Oui, c'est spermophobie, spermatophobie, c'est plus une curiosité médicale, heureusement, qu'une vraie réalité, heureusement.
Alors, deuxième question, en quoi consiste le candolisme?
Le candolisme.
On en parle assez souvent dans cette émission.
J'ai dû rater alors celle-là.
ça vient d'un roi qui s'appelait Candole et qui était très friand de ça. Ça vous aide pas beaucoup là.
Hein. Non. Candolisme. Alors, est-ce que c'est une sorte de pratique de masturbation ou quelque chose comme ça?
Non, c'est pas une pratique de masturbation, c'est une pratique qu'on peut retrouver souvent dans les clubs libertins. Je vous aide un peu.
Candeur.
Non, ça vous aidera pas à ça. Parce que ça vient du roi Candole, qui était un homme qui aimait beaucoup.
L'échangisme. C'est une pratique d'échangisme, une pratique de ou
voyeurisme. C'est pas de l'échangisme, mais oui, c'est plutôt du voyeurisme.
Absolument. Du voyeurisme, de regarder des autres en train de s'ébattre, de voir deux corps s'ébattre.
Pas des autres, mais quelqu'un en particulier.
Deux femmes.
C'est plus exactement sa femme.
Ah, sa femme, ah, d'accord, avec bien sûr un autre homme. Ok.
Voilà. Bravo Alexis, j'aime bien parce que vous voyez, vous connaissez pas la réponse, mais vous cherchez et vous posez les bonnes questions et vous arrivez à la bonne réponse. C'est en effet, le roi Candole adorait regarder sa femme, d'autres hommes qui faisaient l'amour à sa femme, et c'est de là que vient le terme candolisme. Voilà, c'est une deuxième excellente réponse. Il est très bien, hein, Vincent Hubertin, notre
Oui, notre oui, absolument, oui, brillant.
Bravo. Troisième question.
Merci à Brigitte aussi.
Oui, allez-y, allez. Non, vous avez trouvé. Vous avez trouvé tout seul. En France, est-ce qu'on peut louer un appartement à une prostituée ?
En France, Alors là, c'est une question qui est délicate. En droit, je ne pense pas qu'on puisse l'interdire, à moins qu'elle définisse elle-même, qu'elle dise qu'elle soit prostituée, mais on ne peut pas interdire à quelqu'un de louer un appartement, sauf si elle met en avant sa pratique, mais je ne crois pas que c'est interdit. À moins qu'il y ait une carte qui dise « je suis prostituée ».
Non, mais vous avez raison.
On ne peut pas interdire.
Sauf que ce n'est pas conseillé. Et pourquoi c'est pas conseillé ?
Conseillé ? Ça dépend du standing. En fait, c'est pas conseillé, c'est plutôt le standing de l'hôtel. Hein. Je veux dire, s'il voit trop d'aller et venir, ça pourrait être...
Non, c'est pas ça le problème. Enfin, je vous accorde la bonne réponse, parce que d'abord, vous avez bien répondu aux deux premières. En fait, on peut en effet louer un appartement à une femme qui se prostitue, sauf qu'on risque de tomber sous la loi du proxénétisme. On risque d'être accusé de proxénétisme.
D'accord, tout à fait.
Puisqu'on va toucher de l'argent par le loyer d'une femme qui se prostitue. Puis en plus, de toute façon, les clients sont pénalisés maintenant, donc tout ça devient très compliqué. Ah, bravo, Alexis.
Bah, écoutez, excellent. Merci. Merci.
Je vous en prie.
C'est avec plaisir. Je suis content, j'ai passé un agréable moment.
Et bien, nous aussi. Et puis, on vous félicite. Vincent Hubertin, on se retrouve dans un instant et on va continuer à aider les hommes à trouver leurs érections avec Michel qui sera avec nous dans un instant, justement.
14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Et oui, nous parlons de l'érection aujourd'hui, qui est si importante pour les hommes, mais également pour les femmes, en compagnie de Vincent Hubertin, qui est à la fois urologue et sexologue, et auteur de ce livre, L'Encyclopénis, aux éditions Le Duc, dans lequel vous aurez toutes les informations qu'on n'aura peut-être pas eu le temps de donner pendant ces deux heures. Mais d'abord, la devinette, la réponse à ma devinette, Vincent Hubertin. Alors, pourquoi le lézard est supérieur à l'homme ? Vous avez une idée ?
J'avoue que je n'ai aucune idée.
C'est une histoire de queue, hein.
Oui, j'imagine. J'ai cherché dans la réponse, mais j'ai pas trouvé la réponse. J'ai sépliché.
C'est tout simple, c'est parce que le lézard, il est prêt à sacrifier sa queue pour sauver sa vie. Et je connais pas d'hommes prêts à sacrifier leur queue pour sauver leur vie.
Ah, on est d'accord. On est d'accord.
Vous êtes d'accord, le lézard,
Je confirme, effectivement.
Et en plus, elle repousse sa queue. Peut-être que si la vôtre repoussait, vous seriez prêt à la sacrifier, mais j'en suis même pas sûre. Hein.
On n'est pas prêt. On n'est pas prêt.
Non, je crois pas. Hein. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Alors, en revanche, sur Sud Radio, c'est Habib qui est avec nous. Bonjour, Habib.
Oui, bonjour, Audrey. Ça va ?
Ça va très bien, ça va très bien. Vous n'êtes pas prêt à sacrifier votre queue non plus. Hein.
Ça va ? J'ai t'écouté tout le temps. Bon, pour commencer, je suis retraité, j'ai presque 70 ans, et je travaille, j'étais sportif avant, et je travaille encore en ambulance, je bouge tout le temps. Voilà. Alors, j'ai les diabètes type 2, je prends un comprimé le matin, un glucophage, et un le soir. Voilà. Mm-hmm. Alors, j'étais marié, et ça va pas avec ma femme. Et j'ai divorcé il n'y a pas longtemps. On est resté 35 ans mariés. Et il y a eu beaucoup de problèmes. J'arrive pas à faire l'érection avec elle. Alors j'ai couru à droite à gauche avec les femmes. Maintenant, j'ai une fille de 36 ans. Et dès qu'elle me parle au téléphone, ou elle me montre ses seins ou quelque chose, je bande tout de suite. Déjà, seulement quand je l'écoute parler. Et alors, j'ai pris le Cialis, j'ai fait, il y a l'érection pour 3-4 jours, Cialis 20 mg, mais il n'est pas assez dur. Et ça l'embête, ma copine. Hein, on veut se marier, quoi. Même 70 ans, elle m'a dit, je m'en fous, je vais me marier avec toi. Voilà. J'ai le problème, je vous dis que...
D'accord, donc vous aimeriez des conseils de Vincent Huppertin pour que votre érection soit plus dure.
Oui.
Alors, Vincent,
Brigitte,
puisque...
Brigitte, je voulais dire, cette fille-là, elle était mariée pendant 4 mois, et le mari, il est parti, elle a divorcé. Et elle a fait des photos, des poses, comment il a fait l'amour avec elle. Et ce monsieur, son mari, j'ai vu les photos, son pénis, il avait 23 centimètres. Pour la première fois, elle habitait à la campagne, elle ne connaît pas les hommes. Pour la première fois, elle a vu ça. Bon, elle était vierge, elle n'est plus vierge et tout. Et l'autre jour, je lui dis, chérie, tu veux qu'on achète un god? Regarde, il y a tous les détails, les tailles et tout. Elle m'a dit, vas-y, j'étais à Paris, là, j'habite au Bourget. J'étais là, au sex shop, elle a choisi un de 22 centimètres. Je lui ai dit, tu sais comment on va utiliser? Elle m'a dit, oui, tu commences par ton pénis, et après, si ça ne va pas jusqu'au fond, elle m'a dit, tu rentres l'autre. Et je prends ton pénis et je te masturbe. J'ai su, puisqu'elle, elle a commencé la première fois son amour avec un pénis de 23 centimètres, et elle a joui, elle m'a dit, j'ai joui plusieurs fois. Alors j'ai pensé, mon pénis, ça lui fait pas, ça lui fait pas jouir beaucoup. Moi, il fait 12 centimètres à peu près.
Oui, mais je crois qu'Abid, il faut pas tomber dans cette comparaison qui va peut-être vous faire du mal. Après, c'est la manière dont vous vous en servez. Peut-être qu'en effet, l'érection n'est pas assez dure. Peut-être, vous savez, le vagin d'une femme, il fait pas 23 centimètres de toute façon. Hein. Alors après, il y a évidemment des femmes qui ont besoin d'être pénétrées très profondément, d'autres
j'ai
moins.
Brigitte sur la photo, il a pénétré tout. Elle était assise dessus.
Non, mais d'accord, mais c'est pas la peine. Vincent Huppertin pourra pas vous, même avec toute une boîte de Cialis, il pourra pas vous en faire un de 23 cm. Donc il faut laisser ça de côté. Il faut que vous trouviez. Allez-y, Vincent, je vous en prie.
Ouais, la situation est la suivante. C'est qu'on est dans le cadre typique d'un diabète. Le diabète, c'est une maladie du sucre qui crée du vieillissement artériel. Donc, c'est que les artères d'un diabétique ont tendance à vieillir plus rapidement, notamment si on ne fait pas attention au régime, le sport, etc. Donc, un homme qui a un problème de diabète, et il faut absolument faire attention sur le plan médical, mais ensuite, il faut absolument consulter. Pourquoi ? Parce qu'on a des traitements adaptés. Le Cialis, ça ne résout pas le problème. On a des traitements, par exemple, pour le diabète, on peut compléter avec des ondes de choc, on peut traitement du Cialis en continu. Très probablement, si votre partenaire, si votre femme n'a pas de plaisir de l'orgasme, ce n'est pas nécessairement parce que ce n'est pas la longueur. Mais si l'érection n'est pas présente, effectivement, il aura moins de plaisir. Donc déjà, si on va améliorer la qualité de votre érection, c'est sûr et certain, votre femme, votre partenaire aura davantage de plaisir, plus d'orgasme. Donc tout n'est pas qu'une question de centimètres, c'est pas que le 23, 22 ou 12, c'est pas ça, c'est la qualité de l'érection.
Et pour ça, même en s'embrassant, quand je l'embrasse, des fois elle commence à jouir, elle m'aime beaucoup. Et elle m'a dit, c'est pas grave. La longueur, c'est pas grave. Elle m'a dit, j'ai été voir deux fois d'urologue, ils ont rien fait.
Excusez-moi, Habib, je vous coupe, mais je crois que ce qui est important, là, dans votre cas, c'est que déjà, vous retrouviez, vous, par rapport à vous, l'érection et la sexualité qui vous va bien. Vous êtes trop axé sur ce qu'il faut faire à votre partenaire, ce qui fait que vous vous oubliez trop. Et je crois que c'est vraiment important. Bien sûr que c'est bien que les hommes aujourd'hui aient envie de donner du plaisir à leurs femmes, mais d'abord, il faut que vous soyez un peu plus égoïste. Et donc, il faut d'abord que vous puissiez retrouver l'érection qui vous plaît, qui vous convient, et puis lui faire l'amour comme vous avez envie de lui faire l'amour. Ensuite, on verra comment, qu'est-ce qu'elle ressent. Si en plus elle vous aime et qu'elle a envie d'être avec vous, la femme a une capacité d'adaptation qui est quand même beaucoup plus grande que ce qu'on pourrait imaginer. Sinon, toutes les femmes auraient besoin d'un pénis de 20 cm, ce qui est heureusement pour beaucoup d'hommes, ce n'est pas le cas.
J'ai acheté de pommades, c'est 80 euros. Et je masse une fois le matin, une fois le soir.
Oui, oui, mais vous êtes dans la performance, Habib. Vous êtes dans la performance et vous n'êtes pas du tout dans la relation à l'autre et dans la relation d'abord à vous-même. Oui. D'abord, il faut régler cette question d'érection et de diabète. C'est ce que vient de vous dire Vincent.
Les diabètes, disait M. Vincent, je me contrôle, je travaille au milieu de médecine. J'ai toujours 1 gramme, 1 gramme 5, 1 gramme 10. 0,80, je me contrôle tout le temps. Ça, c'est bien.
Oui, ça n'empêche que il faut faire du sport. Est-ce que vous faites du sport déjà? Est-ce que vous prenez temps? Est-ce qu'au niveau alimentaire, oui, donc c'est multifactoriel. Et puis de toute manière, si le diabète est déjà là, il y a quand même des moyens pour traiter au-delà. On a le traitement à la demande, genre le Cialis ou Viagra ou etc. Mais au-delà de ça, il faut un traitement spécifique par rapport au vieillissement artériel. Hein.
C'est ce que j'ai fait. Le Cialis, ça fait pas, il n'est pas dur, mon pénis, avec Cialis.
Ça veut dire que vos artères ont quand même bien suivi l'effet de diabète. Donc, c'est pour ça qu'il faut une prise en charge adaptée à votre situation particulière.
Parce que Vincent Huppertan, peut-être qu'il faut passer aux injections intracaverneuses dans le cas d'Habib, s'il veut vraiment une verge très très dure. Enfin, je ne sais pas, hein, moi je ne suis pas...
Oui, l'éjection fait partie... On est tout à fait d'accord, Brigitte, si vous avez bien dit, mais avant les injections, on a le gel intraurétral de Vitaros, donc on a toute une gamme de traitements, et je reviens encore sur les traitements régénératifs, comme les ondes de choc, parce que ça peut pas guérir complètement,
oui,
mais on va récupérer, donc il se peut qu'après ce traitement, le Cialis 20 lui donne les érections. Donc encore une fois, c'est un traitement qui sera adapté à chacun des hommes selon sa situation, la maladie, le couple, etc. C'est vraiment du cas par cas.
En fait, on se rend compte, Vincent Huppertan, et c'est vrai que c'était très bien l'arrivée du Viagra, c'est bien l'arrivée des autres pilules, les Vitra Cialis, etc. Mais on se rend compte que finalement, ça occulte un petit peu d'autres traitements, comme vous l'avez dit, les ondes de choc, les injections. Enfin, il n'y a pas que la pilule miracle, en fait, en quelque sorte. Et c'est pour ça que c'est vraiment du cas par cas. Chaque panne d'érection n'est peut-être pas le même traitement et c'est pour ça qu'il faut que chaque homme prenne son destin en main, si je puis dire.
Parfait, tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire que c'est fantastique ces traitements. On ne les avait pas, on les attendait depuis des siècles, donc sont arrivés, mais ça ne suffit pas. C'est essentiellement, ils sont là, on va s'en servir, mais ça ne suffit pas. Donc il faut aller au-delà de ça, il y a des traitements, il y a par exemple du PRP, du plasma qu'on va injecter au niveau du corps caverneux qui va permettre la réparation. Donc, on a tout un tas de nouveaux traitements régénératifs qui sont en complément, qui pourront permettre. On n'est pas dans le traitement à la demande, on est dans le traitement à visée curative pour la guérison. Et donc, on a des traitements, hein, mais qu'il faut soient adaptés à chacun de nos patients.
Donc, Habib, reprenez peut-être un rendez-vous et puis voyez...
Brigitte,
oui, je vous en prie, allez-y.
S'il te plaît. J'ai essayé le gel dans une petite capsule, dans le trou de mon pénis, ça ne me fait rien du tout. Sauf l'urologue, il m'a fait une piqûre de mon pénis et il est bondé pendant 2 heures comme ça, il est bien dur.
Oui, c'est ça.
Mais moi, je ne veux pas me piquer chaque fois. Des fois, j'ai les mains qui tremblent avec ma partenaire. Je ne veux pas me piquer chaque fois.
Habib, il faut savoir ce qu'on veut. Je veux dire, il faut savoir ce qu'on veut aussi quand on a un traitement à suivre. On le suit. Hein. Si on a un problème cardiaque, on va suivre. On va prendre ses médicaments pour le cœur tous les jours. Là, vous avez une petite défaillance érectile. Si vous avez envie d'avoir des érections, vous pouvez. Enfin, c'est pas. Il y a rien de. Je vois pas pourquoi ça ne serait pas aussi simple que ça de vous piquer chaque fois que vous avez envie d'avoir un bon rapport sexuel. Vous voyez, je crois qu'il faut... Je sais bien qu'on a l'impression comme ça, que ça devrait, qu'on devrait bander sur, tout seul. Malheureusement, ben vous avez du diabète, vous avez l'âge, et vous avez envie de faire plaisir à votre compagne. Donc il faut choisir, il faut, faire le pour et le contre. Et moi, je pense que franchement, la solution des injections, dans votre cas, ça me paraît plutôt bien, hein. Mais bon,
après, je suis tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Et c'est exact, c'est un traitement, c'est simple, il a réussi. L'injection elle-même n'est pas indolore. Peut-être ajuster la dose, parce que 2 heures, c'est peut-être un peu beaucoup, on peut jouer au niveau de la dose. Mais c'est un traitement qui est fantastique, qui est efficace et surtout tout à fait adapté, notamment chez un homme qui souffre de diabète.
En plus, je crois que c'est remboursé par la sécurité sociale quand il y a
du diabète. Exact, je confirme, c'est remboursé par la sécurité sociale.
N'est-ce pas ? Bon, donc vous voyez, Habib, il y a des avantages. Merci en tout cas de votre témoignage. Et puis, ben, écoutez, profitez hein, de cette rencontre.
Il n'y a pas autre chose que les piqûres, Brigitte, le docteur. Il n'y a pas d'autre chose que les piqûres.
On a déjà parlé, effectivement. Il y a d'autres solutions.
Hein,
il y a les ondes de choc. Il y a les ondes de choc. Il y a des traitements nouveaux qui existent depuis peu. On a des injections spécifiques pour récupérer. Mais malgré tout, les injections font partie de l'arsenal thérapeutique qui est très efficace aujourd'hui.
Voilà. Merci, Habib, en tout cas. Allez, on se retrouve dans un instant avec Trinidad pour notre Sexy News.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News.
Vincent Huppertan, nous retrouvons Trinidad qui nous propose une madeleine, n'est-ce pas Trinidad ? Bonjour.
Bonjour, bonjour Vincent. Tout à fait, parfois plutôt que de pleurer comme une madeleine, il vaut mieux s'intéresser à une madeleine. En l'occurrence, Madeleine Pelletier, pionnière du féminisme et femme médecin au début du XXe siècle. Je ne sais pas si vous la connaissez Brigitte. Rien
non,
à voir avec la madeleine,
son nom
ben, moi je l'ai découverte. Ouais, je l'ai découverte aussi il y a quelques jours. Rien à voir avec la madeleine de Proust, on ne la trempe pas dans le café ou le tilleul, mais c'est une madeleine bien trempée quand même. J'ai découvert madeleine.
Vous la connaissez,
madeleine...
Vincent
Huppertan ? Non, c'est la première
cette
fois.
Cette madeleine
oui, vous allez l'aimer.
Vous entendez son nom. Bon. Excusez-moi, j'ai vous a coupé dans votre élan, Trinidad.
Je vous en prie. J'ai découvert Madeleine que je ne connaissais pas et pourtant elle vaut la peine. On adore les femmes comme ça. Bien avant les féministes, elle est allée au combat. Elle a même fait médecine quand les femmes n'avaient pas le droit. Et oui, Brigitte, vous l'avez compris, cette Madeleine n'est pas faite dans le même moule car elle n'est jamais entrée dans le moule. Madeleine Pelletier est née en 1874, morte en 1939 et entre les deux, elle a fait sa part pour éveiller la conscience des femmes et défendre nos droits. 50 ans avant le MLF et la loi Veil, elle a défendu le droit à la contraception, à l'avortement, puisqu'en tant que médecin, elle en a pratiqué elle-même. Et pour réussir tout ça, elle n'a pas fait dans la dentelle, dans le vrai sens du terme. Pour elle, pas de foufrou ni de décolleté. Elle s'habillait comme un garçon, pas de cheveux longs, mais une veste et un pantalon, canard, la main et chapeau melon et un revolver. Pas question d'emmerder Madeleine. Elle était pour l'abolition du genre féminin. C'est pas la féminité qui souhaitait le plus... aux yeux. Elle disait « Je ne m'habillerai pas en asservie. Le costume provocant que portent les femmes est le symbole de l'offre permanente qu'elles font de leur personne à l'autre sexe. Si je m'habille comme je le fais, c'est parce que je suis féministe. Mon costume dit à l'homme « Je suis ton égale. »
D'accord. Donc elle était réellement féministe avant l'heure. Hein.
Elle était féministe avant l'heure et pas féminine. Voilà, c'est simple, carré comme une tranche de panier. Bref, Madeleine a su prendre sa place, d'où la place de la Madeleine. Qui prouve une fois de plus qu'à toute époque et en toutes circonstances, on peut faire différemment. Évidemment, il faut une sacrée volonté et de l'ambition pour devenir Madeleine Pelletier, surtout qu'au départ, elle s'appelle Anne, comme sa mère, et qu'elle a tout sauf envie de ressembler à sa mère, qui, sur 12 grossesses, a quand même fait 10 fausses couches. Mmh. C'est un beau score quand même. En même temps, le nom de famille de sa mère était Passevie, donc il n'y a aucune raison que la vie reste, et avec Madeleine qui est restée, elle n'était pas très aimante. Le père, Louis Pelletier, est invalide à cause d'une attaque cérébrale. Bref, la famille de Madeleine, c'est des tronches de cake. Son enfant, c'est pas du gâteau. Madeleine n'a pas envie de compter pour du beurre en attendant de sucrer les fraises. C'était pour le dessert, ça.
Mais donc elle s'est pas mariée. Elle est restée célibataire.
Non seulement elle s'est pas mariée, mais elle est restée vierge par engagement. Je vous l'explique après.
Vierge.
Ouais. Oh. Et bah, par militantisme. Petite, ne supportant pas les ordres si on ne lui en donnait pas les raisons, elle rêvait de devenir un grand général. Sa mère lui répondait « Les femmes ne sont rien du tout, elles se marient, elles font la cuisine et elles élèvent les enfants. » On comprend que Madeleine ait pu écrire plus tard « Je puis dire que j'ai toujours été féministe, du moins depuis que j'ai l'âge de comprendre. » Voilà, et comme je dis toujours, on devient féministe d'abord chez soi et souvent avec sa propre mère. Et à 12 ans, Madeleine, en attendant de chanter comme Nicole Croisi, « Je me suis enfin sentie femme, femme, une femme sous ton toit », chante comme Sheila, « mais oui, l'école est finie ». Car trop différente et sans doute précoce, elle se sent rejetée par les élèves, les profs et décide d'arrêter l'école et d'aller écouter les anarchistes qui la fascinent. Et c'est par les circuits anarchistes qu'elle va reprendre ses études en autodidacte, passer son bac à 22 ans, qu'elle aura avec mention très bien. Elle va s'élever par le savoir et une ambition hors du commun, certains diront que c'est une miraculée sociale. Madeleine a le goût de la politique, ses nouveaux potes sont anarchistes, socialistes, médecins républicains, progressistes et francs-maçons qui vont l'initier eux-mêmes à la franc-maçonnerie et l'encourager à devenir médecin. Et c'est comme ça qu'en 1898, à l'âge de 24 ans, elle entre à la fac de médecine où on compte 129 femmes sur 4500 étudiants. J'ai fait le calcul, ça fait 2,86%. On est un petit peu loin de la parité. Madeleine s'intéresse à l'anthropologie. Oui, pardon. Elle s'intéresse à l'anthropologie.
On est très loin. Alors que je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de femmes médecins que d'hommes, il me semble. Je sais pas
Il y a une vraie tendance, hein. Y compris en urologie, il y a de plus en plus de femmes qui veulent être, devenir urologues. Donc, effectivement, la profession, globalement, et nos spécialités, c'est en train de, y compris la sexologie. Alors, la sexologie, c'est une plaie, hein. Donc, c'est, la sexologie, c'est une spécialité éminemment féminine.
Elle s'intéresse surtout au crâne parce qu'elle veut vérifier par elle-même si le cerveau des femmes est si différent que celui de celui des hommes. Et elle se spécialise en psychiatrie. Elle soutient brillamment sa thèse entre comme interne à Sainte-Anne en 1904. Et là, petit souci Brigitte, parce que comme disait Coluche, le candidat est une candidate et que pour pouvoir accéder au concours d'entrée dans l'internat, il faut pouvoir jouir de son droit politique et les femmes n'ont pas le droit de vote. Et ne vont l'obtenir qu'en 1944, 140 ans plus tard, elle se retrouverait à la retraite avant de travailler. Pas de souci, la Madeleine va partir au combat. Et avec le soutien du journal féministe de l'époque et quelques actions musclées, parce qu'elle y va, Madeleine, elle obtiendra gain de cause, fera changer la loi et deviendra la première femme interne des hôpitaux de Paris. Ça, c'est fait. Ouais. Ensuite, la politique prend le dessus sur la médecine, parce que ça ne se passe pas très bien avec ses collègues masculins. En 1906, elle prête serment comme médecin des postes, exerce dans les quartiers populaires, et c'est là qu'elle croise les premières femmes qui ont besoin d'avorter. Alors c'est sûr, comme je vous le disais, Madeleine, c'est pas une déconneuse. Hein. On lui chante pas du Claude François « Quand tu souris », parce qu'elle ne sourit pas. Elle n'est pas Claudette, elle est plutôt Galette. « Résiste, prouve que tu existes ». Et sa virilisation l'empêche de trouver du soutien auprès des socialistes et des autres féministes. Alors elle publie des romans, des pièces de théâtre pour faire passer ses messages. En 1911, elle édite le droit à l'avortement et écrit un roman sur une société où le couple n'existe pas et les enfants sont confiés à des institutions dès la naissance. Pour elle, le féminisme est plus important que l'appartenance à un parti. Elle ne veut pas de sexualité sans égalité et dira « je n'ai pas fait l'éducation de mon sens génital ». Donc, tant qu'il n'y avait pas d'égalité homme-femme, elle ne voulait pas avoir accès au sexe. Donc, elle est morte vierge et hémiplégique puisqu'elle a eu un AVC en 37. Et dommage, en 39, elle est arrêtée pour avoir avorté une adolescente violée par son frère. Elle se retrouve en hôpital psychiatrique et elle décède quelques mois plus tard. Son dossier médical a disparu, mais son combat est resté. Et comme dit une autre Madeleine, quand on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on doit.
Waouh. Mais merci Trinidad. Moi, je ne connaissais absolument pas cette femme. Et c'est vrai que c'est un parcours assez exceptionnel. Même si, sa virginité n'est peut-être pas ça qui m'attire le plus vers elle, mais c'est quand même un sacré parcours. Bravo.
Ouais, c'est un sacré parcours.
Merci. Oui, et je suis sûre qu'il y en a beaucoup des femmes comme ça qui sont... on ne les connaît pas évidemment, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont battues pour bien avant l'heure. Et c'est bien de temps en temps de rendre hommage à l'une d'entre elles. Merci Trinidad.
Merci.
Et puis, on va se retrouver dans un instant avec le Love Conseil. Et je vous propose un jeu de caresses et de chatouilles. Voilà. Vincent Hubertan, à tout de suite.
Brigitte Lay, Sud Radio. Le Love Conseil.
Alors Vincent Hubertan, je propose un jeu de caresses et de chatouilles. Alors se caresser, c'est évidemment de la sensualité, hein, c'est quelque chose qui peut faire monter l'excitation, monter le désir. Et puis je trouve que la sensualité, c'est très très bien, mais que la complicité, ça fait partie aussi des éléments essentiels dans le couple, hein, pour que le rapport sexuel soit harmonieux. Et alors je propose ce jeu parce que c'est assez drôle. rôle. Alors, c'est évidemment pour des couples qui se connaissent un petit peu. Hein, je ne vous conseille pas de faire ça la première fois que vous rencontrez quelqu'un lors d'un premier rapport. Mais il y en a un qui va rester totalement immobile aux caresses et aux chatouilles. Et donc, le rôle, évidemment, ce sera de le faire réagir le plus vite possible. Et vous pouvez même aller jusqu'à chronométrer sa capacité à rester zen le plus longtemps possible. Alors, évidemment, tous les coups sont permis. Hein, vous pouvez caresser des zones interdites. Par exemple, si vous êtes avec un homme qui n'aime pas particulièrement qu'on lui caresse l'anus, ben vous y allez. Et puis s'il ne reste pas zen, et ben, il a perdu. Et puis vous pouvez chatouiller, parce que les chatouilles, c'est très difficile de rester zen quand on vous chatouille des parties particulièrement sensibles. Donc le but, c'est vraiment qu'il y en ait un qui ne bouge pas, tandis que l'autre s'amuse à toucher les différentes parties du corps de différentes manières. Donc je dis bien, hein, soit par des caresses, soit par des chatouilles, pourquoi pas même utiliser des objets comme une plume, enfin ce que vous voulez, ou même voilà. Et c'est encore une fois, le but, c'est pas de procurer forcément énormément de plaisir, c'est vraiment de s'amuser, de créer une complicité et de jouer sur le corps de l'autre. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, Vincent Hubertan?
Ah, c'est fabuleux. En fait, c'est la base de ce qu'on appelle le sensei de focus. Vous savez, ces techniques d'éducation sexuelle, de sexothérapie de Master & Johnson, qui, justement, on va se défocaliser du plaisir pour aller sur le contact cutané, pour apprendre, défocaliser l'attention du génitalisme vers la peau, le plaisir. Voilà, c'est, on ramène la sexualité et ce que ça doit être, à savoir un jeu. C'est du partage, c'est les sensations, et que tout le corps, il y a partout, hein, notre corps partout, il y a plein de récepteurs qui n'attendent que ça, d'être chatouillés, d'être stimulés, et du coup, ça n'a fait que la complicité augmente, et surtout le plaisir, avec un fabuleux feu d'artifice à la fin du rapport.
Exactement, et on peut s'amuser à, par exemple, bander les yeux de celui qui est touché. Enfin bon, après, je vous laisse aussi interpréter le love conseil, hein, mais le but, c'est vraiment de découvrir le corps de l'autre d'une manière différente et d'en faire un jeu, d'en faire quelque chose de complice. Voilà. Alors, nous sommes avec Emma Lefort, qui est une auditrice et fidèle, et on la remercie. Bonjour Emma.
Bonjour.
Alors, je sais que c'est un pseudonyme, hein, que vous avez pris parce que vous écrivez des poèmes tendrement érotiques. Vous précisez bien tendrement érotiques, que vous m'avez gentiment envoyé. Et là aussi, hein, l'écriture érotique, c'est un moyen de faire fonctionner son imaginaire, et c'est un moyen d'entretenir sa libido. Je ne m'inquiète pas trop pour votre libido, Emma.
Oui, ça a été un long chemin quand même, hein.
Ah oui, alors
c'est pas venu comme ça, cette écriture. Ça a été une redécouverte à environ 55 ans, avec une vie sexuelle qui était quasiment inexistante auparavant.
Oui. Alors vous aviez donc une sexualité un peu inexistante, mais forcément quand même avec une libido qui était peut-être endormie, mais qui était là, parce que sinon vous n'auriez pas pu aujourd'hui écrire ce que j'ai sous les yeux.
Ah oui, c'est un petit peu ce que j'ai découvert après. Et je m'en réjouis.
Mais oui. Alors quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a donné envie tout d'un coup d'écrire?
Le déclic, ça a été une rencontre sur un site. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, l'écriture a coulé tout à fait simplement et tout à fait spontanément. Et de fil en aiguille, j'ai écrit un poème, puis deux, puis trois. Et c'était un petit peu une façon de raconter cette nouvelle vie, avec cette redécouverte de ma libido, de femme de 50 ans qui avait élevé ses enfants. Enfin voilà, c'était... C'est très étonnant comme c'est venu, et c'est venu comme ça s'est arrêté. C'est-à-dire, quand j'ai eu terminé d'écrire ce recueil, j'avais tourné une certaine page de ma vie, j'étais passée à autre chose, mais en étant bien plus épanouie qu'auparavant, bien évidemment.
Et au départ, vous les avez écrits pour vous, pour lui, comment ça s'est passé?
Je crois que, oui, un peu des deux. Je pense qu'au départ, c'était un besoin d'écrire, un besoin d'exprimer des choses que j'avais certainement refoulées pendant très très longtemps, et cette écriture était un peu salvatrice, quoi. Et puis j'ai commencé à la partager avec lui, cette première personne que j'avais rencontrée. Et puis après, je l'ai partagé avec des amis, mes amis qui m'ont dit mais c'est beau, vas-y, continue. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que c'est les femmes qui, en lisant ça, me disaient qu'elles se retrouvaient dans ce que je pouvais décrire et dans les émotions et dans la sensualité que je pouvais essayer de traduire, quoi. De ce que je vivais, moi, très, 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 très simplement, quoi.
C'était une écriture assez féminine. Je vais vous en lire deux phrases, justement, Vincent Huppertan. Vous écrivez « Je te sens encore attraper une poignée de mes cheveux pour scander le va-et-vient de ton désir. Enfin, femme abandonnée à cette musique de nos corps, à l'unisson d'un plaisir grandissant. » Complicité des corps en fusion intemporelle. C'est très féminin, hein. On sent la sensualité, le besoin de ce corps à corps, hein, dont on parlait d'ailleurs depuis le début de l'émission, puisque finalement c'est l'érection, hein, qui permet la rencontre des deux corps. Et on sent qu'il y a dans votre écriture, hein, là j'ai lu juste un extrait, mais beaucoup de sensualité et ce besoin de alors, tendresse, le mot est peut-être un petit peu trop connoté.
Non, vous pouvez y aller. Oui, oui, il y a le besoin de tendresse, il est parfaitement assumé. Oui, absolument. Au contraire.
Je crois que les hommes aussi ont besoin de tendresse dans le rapport sexuel. Ils la découvrent d'ailleurs. Je trouve que les hommes parlent plus de ce besoin de tendresse dans la sexualité aujourd'hui qu'ils n'auraient pu en parler il y a 50 ans, non, Vincent Huppertan, on sent. Ce qui d'ailleurs parfois bloque les érections.
La réalité est la suivante, les hommes sont plus fragiles que les femmes sur ce côté-là, c'est que sinon il n'y avait pas les pannes, vous voyez. Donc ce que je dis à mes patients qui consultent et qui sont atterrés les pannes, j'ai dit, ben, c'est très très beau, ça montre que vous n'êtes pas du presse-bouton, ça montre que derrière 1m80, 100 kg de muscle, il y a quelqu'un, il y a un cœur très fragile, il y a l'émotion, et que cette tendresse, cette fragilité, ça montre à quel point c'est important. Et la plupart des hommes qui ont des pannes, en fait, c'est la panne, c'est pas seul, c'est avec l'autre. Donc, c'est une fragilité qu'on met face à l'autre. Donc, oui, c'est extrêmement fort. Donc, les hommes, ils ont besoin de tendresse, ils ont besoin de sensualité, ils ont besoin que les deux cerveaux communiquent sur une espèce de wifi. Donc, oui, les hommes sont très fragiles. Oui, les hommes ont besoin de beaucoup de tendresse, beaucoup de compréhension pour faire exploser la sensualité, pour que les deux corps arrivent à travailler à l'unisson.
C'est exactement ce à quoi je voulais en venir. Hein. On vit à une époque où je pense que c'est peut-être pas si évident que ça pour les hommes à qui on fait endosser beaucoup de rôles de paternité que je trouve très très bien. Ceci étant, pourquoi est-ce que nous les femmes on aurait besoin de tendresse, de câlins, etc. Et pourquoi est-ce que les hommes n'auraient pas le droit au même traitement, quoi. Je pense que une relation sexuelle épanouie, si la femme est pas tendre, si elle est pas câline, si elle ne rassure pas, l'homme de la même manière qu'on attend d'être rassuré, c'est sûr que pour l'érection, ça peut rendre des choses compliquées.
On le voit dans vos poèmes, Emma Lefort. Il y a beaucoup cette notion d'abandon, d'ouverture, de réceptivité à l'homme qui va venir vous pénétrer. Et je crois que c'est ce qui laisse. C'est pour ça que j'ai eu envie de vous faire réagir à l'antenne, parce que je crois que c'est ça que les femmes doivent comprendre aujourd'hui. Si on peut évidemment attendre d'une femme qu'elle soit active dans sa vie professionnelle, sexuellement, on attend quand même encore toujours et heureusement d'une femme qu'elle s'abandonne et qu'elle accueille l'homme. Et c'est ce qui l'aidera, lui, justement, se sentant accueilli, à avoir une érection.
Ah oui, ça, je suis sûre que. Mais c'est quelque chose qui doit être complètement réciproque. Ça ne doit pas être une relation. Les relations à sens unique, à mon avis, au niveau de la sexualité, ça ne peut pas fonctionner. C'est pas.
Mais l'abandon est central dans les rapports.
Complètement.
L'homme est comme la femme, il faut s'abandonner. C'est-à-dire ne pas avoir peur de l'autre. Sinon, les cœurs et les corps n'arrivent pas à se mettre à l'unisson. Il n'y a pas de résonance, ni affective, ni érotique entre les deux partenaires. Donc, ouais. L'abandon est très important. Et la confiance, ouais, dans l'autre.
Oui,
bon, en tout cas, c'est très joli. Emma Lefort, ça s'appelle Poème tendrement érotique. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut les trouver sur.
C'était publié par les éditions du Panthéon et c'est sur le site de la FNAC et dans toutes les librairies. Vous pouvez le commander dans n'importe quelle librairie, d'accord, mais sur les sites de la FNAC. Voilà.
Et ben voilà, c'est très joli. C'est un petit recueil tout à fait sympathique. Et merci d'en avoir parlé avec nous sur l'antenne.
Merci de m'avoir écouté.
Je vous en prie. Et on retrouve Bruno qui est avec nous maintenant. Bonjour Bruno.
Bonjour Brigitte, bonjour Vincent, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour. Je suis bien content de vous entendre et de vous voir. En plus, c'est super la vidéo sur Internet.
Merci.
Vous devriez parler plus souvent peut-être du lien, parce que moi-même, j'ai parfois du mal à vous trouver au niveau des vidéos. Oui. Mais bon.
Eh ben, écoutez, c'est simple. Il faut aller soit sur sudradio.fr ou sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Voilà. Et puis, vous allez nous voir. Vous verrez également mes invités, Vincent Hubertan. Voilà, il est là aussi.
Son beau costume.
Et on vous fait des petits coucous, vous voyez. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà.
Mais ouais.
Et puis, bah. Allez. Ça... Voilà. Bon, alors.
Voilà. Bon, alors, toujours.
Qu'est-ce que vous nous racontez, Bruno ?
Toujours ce sujet des érections. Alors, j'ai écouté attentivement l'émission. Et moi, j'ai traversé un peu les mêmes problèmes qu'un des auditeurs avant. C'était suite à une dépression où, où avec la dépression, plus rien ne marche convenablement, quoi. Et ce qui m'a sauvé, ce qui me sauve toujours quand ça va pas, parce qu'arrivé vers 54 ans, on est encore en pleine jeunesse, mais quand même, là, je commence à avancer tout doucement. Et ce qui m'a sauvé et dont on parle peu, c'est quand même, comment dire, c'est l'écoute et l'espoir et de ne rien figer. Y a plein de façons médicales et j'en suis ravi. Alors, ça nous montrera que même à 90 ans, si on est encore là, ben on pourra faire des choses, puisque la médecine évolue sans cesse. Mais j'ai l'impression que sans amour, sans respect, sans écoute, ben tout n'est que provisoire et au niveau des érections, je parle.
Oui, vous confirmez ce qu'on dit depuis le début de l'émission d'ailleurs, hein, c'est une histoire à deux, hein, l'érection. Et d'ailleurs je posais la question, je voulais pas poser directement Vincent Hubertan, mais pendant des masturbations, les hommes ont pratiquement jamais de panne d'érection de toute façon.
Bonne question.
Oui, alors la question est la suivante, tant que la mécanique ça fonctionne, comme tant que la machine artérielle, hormonal, métabolique, diabète, enfin tout ça, ça fonctionne. Il n'y a pas de panne. Hein, on parle de l'accident, de la perte d'érection. Par contre, l'érection, c'est la manifestation de la santé des artères. Tout ce qui, à partir de 18 ans, nous avons un capital de la santé artérielle, qu'avec la vie, il va se dégrader. C'est en fonction de notre histoire de vie, notre hygiène de vie. Le sport, on le dit tout le temps. L'alimentation, on ne parle pas assez, le tabac, diabète, tout ça, ça fait qu'il y a une espèce de vieillissement artériel et l'érection qui est une fantastique dilatation des corps caverneux. Si les artères sont en bonne santé, ben, il n'y a plus d'érection parce que le sang n'arrive plus. Donc, il est bien, donc il y a une composante émotionnelle, intellectuelle, psychique, mais il y a aussi la mécanique. Et les mécaniques, quoi, c'est les artères. C'est pour ça qu'il y a des traitements spécifiques, y compris le sport, y compris l'hygiène de vie. Donc, on peut très bien, un diabétique qui a un diabète avancé, lors de sa masturbation, il peut ne pas avoir l'érection, alors qu'au contraire, il a l'excitation sexuelle, elle est là, le désir, elle est là, il n'y a pas la panne, mais il y a le problème de artériel, parce que l'éponge, elle est plus rigide.
Mais là, enfin, je veux dire, 90% des problèmes d'érection sont plus dus à des problèmes relationnels qu'à des problèmes de médicaux, finalement. C'était ça un peu ma question.
Il faut voir à partir de quelles statistiques. Si les statistiques concernent les hommes de 18 à 50 ans, effectivement, si on va s'interroger de 18 à 90 ans et au-delà, qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande, voilà, les hommes. Aujourd'hui, ceux qui ont 80 ans, c'était fini. Il y a de plus en plus, ils sont là.
On va revenir un peu sur les chiffres parce que c'est toujours important de donner des vrais repères. Vincent Huppertan, on se retrouve dans un instant. Vous allez nous donner le pourcentage d'hommes qui ont des problèmes érectiles à partir de... On va partir sur 60. Hein. On va laisser les cinquantenaires tranquilles. À tout de suite.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Et bien sûr, on va redonner la parole à Bruno dans un instant, mais Vincent Huppertan, vous êtes donc urologue, sexologue, auteur de l'Encyclopédis, et je vous posais la question, le pourcentage d'hommes qui ont des difficultés érectiles à partir de... Alors, moi j'avais ces chiffres-là, vous allez me dire si c'est à peu près ça. J'avais à partir de 60 ans, il y a 30 à 40%, à partir de 70 ans, 40 à 50%, 80, 50 à 60%, 90 ans... 60 à 70%, c'est les chiffres que j'avais comme ça. Est-ce que c'est à peu près ça ou je suis en dessous?
C'est tout à fait ça. Après, c'est vrai que le problème, c'est que tous ces chiffres-là sont commencés à être déjà anciennes. C'est que aujourd'hui, les techniques d'évaluation des sondages ont évolué. Très probablement que la fourchette de confiance est plus grande que ça. Mais c'est voilà, grosso modo, ça correspond à ça. Après, ce qui compte pour soi-même, si on l'a, on l'a pas, c'est 0 à 100%. On n'est pas impuissant à 60%.
Sûr.
Voilà. Ce qui compte,
bien sûr, c'est clair que si on est à 90 ans et qu'on n'a aucun problème d'érection, tout va bien, on n'a pas besoin de s'en inquiéter, voilà. Mais c'est normal, hein, le corps vieillit et il n'y a pas de raison que le pénis ne vieillisse pas, hein, de toute façon, voilà.
Sauf Bruno... que le cerveau ne vieillit pas, donc on a besoin d'avoir le plus longtemps des érections, c'est pour ça qu'on est là, parce que c'est pas parce qu'il y a des pannes, qu'il y a des troubles, qu'on n'a pas de solution, donc il faut qu'on donne de l'espoir à tout le monde.
Oui, oui, les solutions sont là aujourd'hui et ça c'est quand même très très nouveau. Hein. C'est relativement récent. Hein. Faut pas. Avant, à part la pompe à pénis, il n'y avait pas grand chose hein, avant le Viagra.
Je confirme.
Bon, donc c'est quand même très récent. Hein. Ça fait quoi? Ça fait 30 ans qu'on a des solutions. C'est dans la vie d'un homme, enfin de l'humanité des hommes, c'est rien. Hein.
C'est rien, c'est minuscule. Je confirme.
Donc c'est normal qu'il y ait encore beaucoup de réticences à consulter et qu'il y ait encore beaucoup de méconnaissances. Et c'est à nous d'informer. Bruno, vous voulez réagir? Qu'est-ce que vous avez envie de dire?
Je voudrais dire une chose en espérant ne pas être hors sujet. Un jour, il y a déjà longtemps, vous nous disiez une phrase qui m'a marqué. Que vous disiez que quand l'élève est prêt, le maître arrive. Hein, et... Mmh. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle est tellement vraie et j'aimerais bien, pour finir cette émission, la retranscrire sur notre sujet du jour. Sans être méchant, j'aurais presque envie de dire que quand l'homme est prêt, l'attitude de la partenaire, pas que changer de partenaire, la partenaire arrive, celle qui nous fera vraiment avoir de belles érections.
La maîtresse arrive.
La maîtresse, oui, mais ça peut être l'épouse qu'on a depuis 20 ans, mais... C'est tout ça pour dire que c'est sans doute, ou pour moi en tout cas, c'est une histoire d'attitude. C'est une histoire d'attitude. Comme vous le disiez tout à l'heure, si une nana constate que je suis pas très disponible au niveau érection, et c'est dans son attitude que je vais rejaillir ou bien non m'enterrer dans mon souci. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre.
Si, c'est très clair et c'est très juste ce que vous dites. Les femmes ont leur part de responsabilité dans un sens comme dans l'autre. Elles ont leur part de... Il y a des femmes castratrices, de même qu'il y a des femmes qui, au contraire, vont redonner la vigueur à un homme qui avait l'impression de l'avoir perdu. De toute façon, moi j'ai souvent entendu des hommes qui avaient des pannes avec leur maîtresse ou leur femme et pas l'inverse. C'est tout à fait juste.
Ben oui, tout à fait. Moi, par exemple, un jour, j'étais vraiment en panne, mais je vous l'ai déjà raconté, celle-là, et j'étais en panne, et puis la nana a vraiment eu une attitude juste, en tout cas celle qui me convenait, puisque c'est ce soir-là qu'elle est devenue femme fontaine à 50 ans, elle avait jamais connu ça, et puis moi non plus d'ailleurs, et puis c'était juste, on en parlait avec Sylvain Mimoun à l'époque, et c'était vraiment, elle avait eu l'attitude juste. Tandis que si elle m'avait dit, oh, c'est déjà fini, machin, ou je sais pas quoi, eh ben oui, ça, j'aurais figé et ça aurait été une soirée moyenne. Alors que ça a été la plus belle de notre existence, ou presque.
Mais oui, c'est vrai que l'homme est fragile. Hein. Vous le disiez tout à l'heure, Vincent Huppertan, Bruno le témoigne et beaucoup d'hommes le témoignent toujours.
très fragile. On a besoin de se rassurer, nous aussi. Rassurer, admirer, et compagnie.
C'est ça, tout à fait ça. Non, mais c'est tout à fait ça, c'est tout à fait juste. Hein. On le dit depuis le début de l'émission, c'est que l'autre est indispensable. Ma réaction, c'est pas mon élection à moi. C'est une réaction émotionnelle face à l'autre. Et donc, l'autre peut la bloquer ou, s'il y a une panne, il faut qu'elle trouve les mots justes. Si elle trouve pas les mots justes, ça peut traumatiser la vie. Après, on peut faire des années de psychothérapie. On va jamais oublier ce moment pénible où on se fait disputer parce que ça n'a pas tenu. Donc, d'ailleurs, quand il s'agit des consultations d'ordre sexuel, j'invite tous mes patients de consulter à deux. Si on est dans un couple avec une relation plutôt équilibrée, de la fusion, de la tendresse, des sentiments, si un problème sexuel, ça ne concerne pas l'homme, ça concerne le couple. Donc, il faut qu'ils consultent à deux parce que la solution, ce n'est pas une solution unique, mais elle s'adapte à chacun de couples. Donc, c'est quand même mieux s'ils viennent à deux, c'est plus simple parce que c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus utile parce que finalement, on ne travaille pas l'érection, on va revoir la sexualité du couple.
Et oui, l'érection, c'est le pont entre l'homme et la femme. Merci beaucoup Bruno, merci beaucoup Vincent Huppertin. Comme toujours, c'est passionnant de vous écouter. Je rappelle le titre de votre livre, L'Encyclopénis aux éditions Le Duc. Merci à vous. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Et demain, nous serons avec Ugraine. C'est le retour à la normale. Mais alors, c'est quoi la normale dans notre douce France? On en parlera avec lui et vous nous raconterez comment ces quelques semaines vous ont transformé. Je vous embrasse et je vous dis à demain.